Chers collègues, je vais, je crois, vous parler de la même chose que le sujet précédent, et qui, je pense, aurait aussi passionné Kantorowicz et qui m'a intéressé précisément parce que c'est une autre manière, toute autre manière, de parler des questions dont je vais vous parler. Toute autre manière parce que nous passons, si je puis dire, rapidement des sciences dures aux sciences sociales. Encore que, je ne suis pas sûr que le droit soit une science. Ce qui n'exclut pas qu'un juriste puisse avoir une activité scientifique sur l'objet droit. Et cette question dont je vais vous parler est celle des enjeux alimentaires du commerce international des ressources naturelles. Mais peut-être sera-ce cela l'aboutissement du propos plus que le point de départ. Parce que je voudrais partir de plus loin et vous dire que la question du droit, d'abord en elle-même, pose problème dans la mesure où depuis beaucoup d'années, le mot a disparu de pratiquement tous les discours politiques, de beaucoup de discours scientifiques, au profit de la régulation. On dit « il faut réguler », on ne dit pas « il faut du droit ». Régulation, c'est un mot de la thermodynamique. C'est ce qui permet, chez soi, de pouvoir tourner un bouton et de n'avoir ni trop chaud ni trop froid. C'est ça, la régulation. Comme si le monde était une machine avec quelqu'un qui a quelque part un bouton qu'il peut tourner d'un côté ou de l'autre pour que le monde aille mieux. Eh bien, je ne crois pas du tout à la régulation. Je crois que la régulation fait plus de mal que de bien. Mais si on veut quitter la régulation, il faut arriver au droit. Et il y a là, pour le juriste, mais pour tout le monde, une sorte de paradoxe lorsqu'on veut traiter la question alimentaire dans le contexte que nous connaissons, le contexte actuel du monde. Et pour expliciter ce paradoxe, je vais me référer à une source qui n'est pas très scientifique, c'est un cours de Michel Foucault, mais pas très scientifique, parce que c'est un cours qu'il n'a pas publié. Je n'entrerai pas dans le détail des raisons pour lesquelles il ne l'a pas publié. Mais Michel Foucault dit une chose qui m'a intéressé. Il a dit, on ne peut pas faire du droit et de l'économie en même temps. Qu'est-ce qui caractérise l'homo juridicus ? L'homme, la femme, soumise au droit. C'est fondamentalement la limitation de son intérêt personnel. L'intérêt personnel de chacun, de vous, de moi, est limité par l'intérêt personnel des autres et par l'intérêt général. Concrètement, si mon intérêt personnel n'était pas limité, je pourrais décider, si j'estime que c'est de mon intérêt personnel, de ne pas lâcher la parole jusqu'à la fin de l'après-midi. Mais je me plie à cette limite. Elle est consubstantielle à l'homo juridicus. Quant à l'homo economicus, son intérêt personnel est au contraire sans limite. Si quelqu'un peut gagner 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 milliards, 100 milliards, il n'y a aucune limite. Rien pour l'arrêter. Rien pour l'arrêter. L'homo economicus a un intérêt personnel illimité. Comment concilier le droit et l'économie si dans un cas, l'intérêt personnel doit être illimité et dans l'autre, non. Alors, de Foucault, on passe, ça n'est pas chronologique, à Emmanuel Kant, que j'ai redécouvert il y a quelques années grâce aux travaux remarquables d'une professeure au Collège de France, Mireille Delmas-Marty. Kant, pour qui dit que le droit a comme fonction d'organiser ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Entre les deux. Alors, on pourrait penser, ce qui a un prix, l'économie s'en occupe. Mieux que le droit, et ce qui a une dignité, il vaut mieux que le droit s'en occupe, mieux que l'économie. Le paradoxe de Foucault est ainsi résolu, à chacun sa compétence. Le malheur, c'est que si on met au milieu de la table la question des ressources naturelles, et au premier chef, celle des ressources naturelles qui servent à nourrir la population, alors nous avons là un objet qui a un prix et qui est en même temps la condition première de la dignité des personnes, qui ne relève ni totalement de l'un, ni totalement de l'autre, et qui devra établir, ou pour lesquels on devra établir, une priorité. Est-ce que les ressources alimentaires auront d'abord un prix, ou elles seront d'abord destinées à ce qui a une dignité. Au XVIIIe, dans l'Angleterre du XVIIIe, tel que la raconte un économiste qui est l'une des racines du programme Lascaux, Karl Polanyi, dans La Grande Transformation, il raconte ce mouvement qui était le mouvement des enclosures, le mouvement où on a privatisé les commons, les terres communes. On a réalisé peu à peu, au fil des années, à coup de loi, pour imposer une sorte de maxi-remembrement, découpage en parcelles, appropriation privative des parcelles. Les paysans qui étaient sur les commons et qui en vivaient ont été expropriés. Soit ils sont devenus salariés agricoles des propriétaires, des nouveaux propriétaires fonciers, soit ils sont allés à la ville grossir des urbanisations de la même manière qu'aujourd'hui, on peut le constater dans toutes les grandes mégapoles du monde. Il en est résulté des révoltes populaires, parce qu'ils n'avaient plus de quoi se nourrir, ces paysans expropriés. Plus de terres, plus de ressources et plus d'aliments. Il a fallu calmer ces révoltes. Et on l'a fait dans l'Angleterre du XVIIIe par des lois sociales qu'on a appelées la loi sur les pauvres, d'abord, puis une loi plus élaborée en 1795, s'appelle la loi de Spinhamland, du nom du lieu où elle a été adoptée par des juges du Berkshire. Loi par laquelle les pauvres, les paysans pauvres, s'ils n'avaient pas de quoi vivre, on leur donnait de quoi vivre en fonction du nombre d'enfants et du prix du pain. S'ils avaient un travail et que ce travail leur rapportait moins que ce minimum, on complétait. Et s'ils avaient un travail qui leur rapportait plus que le minimum, ils n'avaient droit à rien. Il fallait qu'ils trouvent un travail. Ce travail, c'était dans l'industrie textile. Industrie textile naissante, et naissante parce que les propriétaires fonciers qui ont réalisé et profité des enclosures l'ont fait pour y mettre les moutons qui ont permis de créer la légendaire industrie textile britannique. Ces lois sociales ont été abrogées en 1834 pour des questions sur lesquelles je ne m'appesantirai pas. Et les paysans ont été priés de trouver leur revenu et de quoi vivre sur le nouveau marché de l'emploi. Et ce qu'explique Polanyi, c'est que pour que le capitalisme naisse et pour que le libéralisme puisse fonctionner sur la base d'un marché autorégulateur, c'est de là que ça vient. Il faut que trois biens soient considérés comme des marchandises fictives, parce qu'elles n'en sont pas. La terre, la monnaie pour les capitales industrielles et le travail. Ce ne sont pas des marchandises parce que, tout simplement, elles ne sont pas produites pour la vente. Mais on les considère fictivement comme des marchandises et on organise fictivement des marchés, marché de la terre, crise des subprimes, marché de la monnaie, crise financière, marché du travail, crise économique. Trois crises, trois biens, fictivement marchandisés. Pendant ce temps-là, en France, mais ce qui est pendant ce temps-là en France, presque pendant ce temps-là, après les physiocrates, se pose un problème de commerce du blé, du prix du blé, dans les années 1770. Et la solution de Turgot, c'est de libéraliser le marché du blé. Il libéralise en 1774. En 1775, émeute populaire, comme dans l'Angleterre, après les Englogers. Pas pour les mêmes raisons. Ce n'est plus la terre, mais le produit de la terre. Ce sont toujours des ressources alimentaires. Comment la société répond-elle à ces émeutes, à ces mouvements de population, parce que la libéralisation a provoqué des hausses considérables de prix? En Angleterre, c'était des lois sociales, puis le marché du travail. En France, c'est la loi martiale. Pour que les marchandises soient libres, il faut que les personnes ne le soient pas. Et de 1775, en gros, à Thermidor, 192. On a une succession de mouvements politiques qui conduisent tantôt à libéraliser le prix du blé, tantôt à le réglementer. Tantôt on libéralise, tantôt on le réglemente. Quand on libéralise, dans le mois ou dans les deux mois, on adopte une loi martiale. Quand on le réglemente, on abroge la loi martiale. Quand on le ré-libéralise, on réadopte une loi martiale. Quand on le re-réglemente, on réabroge la loi martiale. Le droit qui organise le commerce libéral des ressources naturelles à destination alimentaire, ce droit-là, ce qu'on lui demande, ce n'est rien d'autre que ces deux choses. La propriété privée des ressources naturelles et l'ordre social. Les Enclosures, et le même mouvement s'est produit en France à la même époque. Et l'ordre social, soit par une loi sociale, charité publique, soit par une loi martiale. Dans tous les cas, c'est l'ordre social. Le système ne peut pas fonctionner sans cela. Quel système ? Le système de ce qui a un prix. Pas le système de ce qui a une dignité. Ça pose problème. C'est ça l'objet du programme Lascaux. Est-ce que le droit peut apporter autre chose que la propriété privée et l'ordre social ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt convoque trois conférences internationales. Il lance l'idée en 1941, pleine guerre. La première, elle a lieu en 1943, c'est la conférence de Hot Springs. Et puis elle est suivie de deux autres en 1944. L'une, c'est la conférence de Philadelphie, et l'autre, c'est la conférence de Bretton Woods. c'est de Hot Springs. Elle a pour objet de penser la question de l'agriculture et de l'alimentation pour un temps de paix. Quel type de rapport devons-nous avoir avec les ressources naturelles si nous voulons nourrir la population? Ça, c'est l'objet de la conférence de Hot Springs. Et il en résulte des principes forts. La priorité absolue donnée à l'agriculture et à l'alimentation, avant l'économie. Le droit fondamental de l'humanité à être alimenté. Et c'est de cette conférence qu'est né ce qui est devenu aujourd'hui la FAO. Philadelphie, c'est l'Organisation internationale du travail. Et le premier principe posé par la conférence de Philadelphie, qui renouvelle les principes de l'OIT, c'est le travail n'est pas une marchandise. Et puis Bretton Woods, c'est bien sûr le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, c'est aussi le système international des monnaies, c'est-à-dire l'encadrement fort des monnaies, de façon à ce que la monnaie ne soit pas une marchandise, ce qui tiendra en gros jusqu'à Nixon, aux années 70-75. Hot Springs, la terre et ses ressources. Philadelphie, le travail. Bretton Woods, la monnaie. Toujours les trois marchandises fictives de Polanyi. Je ne dirai rien des suites de Bretton Woods, il faudrait demander ça à des économistes. Ni de Philadelphie, il faudrait demander ça à des spécialistes de droit social. Il y a, s'agissant de Philadelphie, le très remarquable livre d'un de mes collègues nantais, Alain Supiot, sur l'esprit de Philadelphie, qu'il vient de publier en 2010, où il raconte cette histoire vue du côté du droit social. Et du côté de Hot Springs, aujourd'hui, pas besoin d'être spécialiste, qu'est devenue la priorité accordée à l'alimentation, qu'est devenu le droit fondamental de s'alimenter, qu'est devenu le droit à une limitation des excès d'exploitation des ressources naturelles qui a été posé aussi à Hot Springs. Nous avons perdu aussi l'esprit de Hot Springs. Nous avons essayé de le retrouver très récemment, à la fin de l'année 2009. Il y a eu trois conférences internationales. Conférence de la FAO sur la sécurité alimentaire à Rome en novembre 2009. Conférence de l'OMC à Genève en décembre 2009 sur le commerce international des produits agricoles. Et conférence de Copenhague, toujours fin 2009, sur le réchauffement climatique. Trois conférences qui ont échoué. Trois conférences qui ont échoué. Et elles ont échoué parce qu'il était immanquable qu'elles échouent. Comme celle de Hot Springs, comme celle de Philadelphie, comme celle de Bretton Woods. Pourquoi? Parce que ce sont des conférences qui sont conçues de manière dissociée. Comment peut-on dire aux pays en développement, il faut que vous réduisiez le plus possible les gaz à effet de serre, on leur dit à Copenhague, et pendant ce temps-là, à Rome, ils se demandent comment ils vont manger, et pendant ce temps-là, à Genève, d'autres leur disent, mais non, il faut libéraliser le commerce. Alors, il faut libéraliser le commerce, donc il faut produire, donc tant pis pour le réchauffement climatique. Ben oui, mais la dissociation tue la solution. Comment peut-on réassocier ces questions sans dire il y a des valeurs que l'on doit prioriser et il faut que le droit mette en musique ces valeurs. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec le concept de développement durable. Trois piliers économiques, environnementaux, sociaux. Économique et le commerce international des ressources alimentaires, environnemental et le réchauffement climatique, et social et la sécurité alimentaire. Le concept de développement durable vise à réassocier. Et concrètement, pour réassocier, alors nous avons un certain nombre d'outils juridiques à retravailler. Ils ne sont pas encore retravaillés parce que autant j'ai la chance de bénéficier d'être membre à l'Institut universitaire de France, mais je ne suis qu'à mi-parcours. Si j'avais déjà la solution au problème, je n'aurais plus de justification à rester encore un peu. Si même on peut aboutir. Mais je voudrais simplement vous faire part de quelques mots de vocabulaire, simplement. La propriété privée, il ne s'agit pas de l'évacuer, il s'agit de rechercher un équilibre entre propriété privée et bien commun. Un équilibre entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité. Il faut aussi rechercher un équilibre entre ce qui est l'internationalisation du commerce, la globalisation, la mondialisation et la souveraineté des États. Parce que la globalisation, c'est la même règle pour tout le monde. Alors que ce n'est pas le même climat, pas les mêmes considérations sociales, pas la même culture, pas la même histoire, pas les mêmes moyens. Il faut donc adapter la situation juridique internationale des États par la réinstauration d'un équilibre de souveraineté pour redonner de la place à la dignité, tandis que l'OMC s'occupe de ce qui a un prix. Et puis la liberté, qui est une belle valeur, et plus belle encore lorsqu'elle ne s'applique pas aux marchandises mais aux personnes, la liberté qui doit être contrebalancée par l'ordre public. L'ordre public, c'est ce qui s'impose, c'est la manière contraignante de véhiculer des valeurs que nous nous sommes données en commun. C'est pourquoi c'est bien plus que de la régulation. C'est du droit conçu, si je voulais le définir de manière extrêmement simple, comme une organisation sociale de la dignité des personnes. Et je pense que si on n'y parvient pas, si on ne retrouve pas l'esprit de Hot Springs, alors, on n'aura pas Hot Springs, mais on aura de plus en plus des printemps chauds. Je vous remercie.
Bien, merci pour cette brillante conférence qui est absolument passionnante et c'est l'un des grands intérêts de nos réunions annuelles de pouvoir brasser ensemble tout cela. Je pense qu'il y a des questions. Nous avons 5 minutes de battement pour les questions. Et il doit y avoir des micros qui circulent dans les allées. Si vous voulez peut-être regagner le pupitre.
Hosseini, IUF Senior, j'ai probablement mal compris votre point. À un moment donné, vous aviez dit que vous étiez fondamentalement opposé à la régulation. Si vous êtes fondamentalement opposé à la régulation, comment vous pouvez éventuellement marier l'intérêt commun et l'intérêt individuel? Et comment vous pouvez, en l'occurrence, tenir un discours contre le libéralisme absolu qui consiste à dire que finalement c'est le système qui régule tout et que nous, en tant qu'êtres civilisés appartenant à une civilisation, à une organisation sociale, on peut intervenir pour modifier l'ordre des choses.
La régulation, si je suis hostile à la régulation, c'est à la régulation telle qu'elle est pensée aujourd'hui, parce qu'elle conduit aux résultats que nous avons devant les yeux. Et je pense que c'est un changement de vocabulaire, mais surtout c'est un changement de monde. Quand on passe de la régulation au droit, j'appelle à redonner au droit sa place dans la gouvernance de ces questions. Non, le droit, ça n'est pas une régulation. La régulation, c'est un bouton qu'on tourne pour augmenter ou baisser la température. Le droit, c'est l'organisation sociale de la dignité des personnes. C'est bien plus que de la régulation. Et c'est aussi plus complexe, mais de ce point de vue, le droit a un avantage sur la régulation. Le droit, c'est un peu comme en biologie moléculaire, si les biologistes pouvaient se boucher les oreilles pendant quelques instants. Un peu comme la biologie moléculaire, où en droit, on connaît le paradoxe de la valeur C. Vous savez, le paradoxe de la valeur C, qu'un organisme, plus un organisme est complexe, hein, c'est quelque chose comme ça, plus un organisme est complexe, pour autant, ça ne veut pas dire que son ADN est complexe à proportion. Il y a des organismes très peu développés qui ont un ADN beaucoup plus développé que le nôtre. Eh bien, le droit, c'est pareil. Pour établir la liberté du commerce dans l'Union européenne, il faut quelque chose comme 15 000 règlements. Ça doit représenter quelque chose comme 1 million de pages. C'est complexe. Alors que si on dit aucune négociation ne peut aboutir, s'il n'y a pas eu au préalable un consensus entre le directeur général de la FAO, le directeur général de l'OMC et le président du GIEC pour que les négociations soient menées en considération l'une de l'autre, si on organise simplement une réunion officielle, transparent, public, alors on peut changer la face des choses avec deux lignes de droit.
L'exigence d'un consensus, c'est précisément une forme de régulation.
Oui, mais ce n'est pas une religion. Le mot régulation est utilisé par ceux qui se satisfont du système actuel. Voilà. Et si pour vous, ça ne pose pas de problème de dire que la régulation, c'est l'organisation sociale de la dignité des personnes, alors parlons de régulation. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent le mot régulation et qui la définiraient de cette manière.
D'autres questions ?